Bonjour à tous, bienvenue sur Télépro, on est en direct avec aujourd'hui notre invité, invité exceptionnel, Michel Boujna est avec nous. Bonjour Michel.
Bonjour jeune homme.
Comment ça va Michel?
J'aime bien lui dire jeune homme parce qu'il fait très très jeune.
Mais pourtant pas si jeune que ça au final, donc bon.
Ouais, mais vous avez, ouais, mais il faut vous raser. Hein.
J'y penserai.
Mais elle vous dit rien, votre mère?
Non, elle dit rien.
Quand vous partez le matin pour aller travailler, elle vous dit rien?
Non, elle dit rien. Elle laisse travailler comme ça, dit donc. Michel, vous êtes avec nous. Venez nous présenter votre spectacle, Les Adieux des Magnifiques. Ça sera le 22 septembre à Uccle à 20h. On a hâte de vous voir en Belgique. Et Michel, on en parlera dans la question promo. Il y aura la question du patron, la question des lecteurs, un coup de pression. Et on terminera par l'ultime questionnaire. OK, Michel?
Oui, monsieur.
Allez, c'est parti. Question promo. Pourquoi dire adieu à vos personnages mythiques?
Parce que je les joue tous les 20 ans et que vraisemblablement dans 20 ans, je ne pourrais pas les jouer. Ou alors avec un déambulateur.
Ça peut être possible.
Oui, bien sûr. Vous imaginez sur scène avec un déambulateur. vous savez que vous êtes limite. Hein. Attention. Hein. Attention, je peux appeler ma mère, la mienne. Et la mienne, elle est terrible. Hein. Elle va jusqu'à Bruxelles, elle vous met une raclée. Hein. Peut-être que je dirais à la fin de chaque représentation, oui, c'est les adieux des magnifiques, première partie. Comme ça, je peux faire une deuxième, une troisième, une quatrième. Très sincèrement, je ne sais pas, mais c'est sûr que quand j'ai écrit, quand j'ai voulu les rejouer une dernière fois, oui, c'est parce que aussi, comme je joue l'avare en même temps en ce moment, et que j'ai quand même envie aussi de faire du théâtre et que le théâtre me prend beaucoup de temps. Je ne sais pas combien de temps il me reste à travailler en étant en forme. Donc, je considère que c'est un beau moment. Et puis, le combat de trop, c'est jamais bon. Et en plus, il y avait une situation tout à fait intéressante parce que maintenant, les magnifiques sont confrontés à leurs petits-enfants. Et les petits-enfants d'aujourd'hui, par rapport aux magnifiques, par rapport à ces grands-pères qui sont des immigrés et tout ça, ils sont complètement paumés. Alors, les grands-pères, ils sont complètement paumés dans la relation qu'ils ont avec leurs petits-enfants. Déjà, avec leurs enfants, ce n'était pas facile. Mais en plus, là, les petits-enfants, moi, j'ai un fils de 24 ans, une fille de 22 ans. Franchement, je me dis que ce n'est pas un cadeau aujourd'hui.
Et pourquoi ce n'est pas un cadeau?
Je sais pas, par exemple, il y en a un, il dit à son grand-père, comment c'était-vous à 20 ans? Parce que nous, aujourd'hui, c'est un enfer. Il dit, entre le préservatif pour le sida, le masque pour le corona, il n'y a plus qu'un orifice qui est libre. Hein. si jamais on nous condamne, on est mort. Hein. Et il dit, j'essaye de respirer par là, mais j'arrive pas. Hein. Donc, vous voyez, on rigole. Parce que c'est drôle, absolument. Mais en même temps, c'est un constat terrible.
C'est vrai.
C'est un constat extrêmement violent. Il y a celui qui emploie toutes les terminologies d'aujourd'hui que les grands-pères ne connaissent pas. Je veux dire, il y a un bail chelou. Maxou, il ne sait pas ce que ça veut dire.
Ouais.
Donc, quand son petit-fils vient lui raconter ses emmerdes, Maxou, il est perdu en face de ce langage. Il y a celui qui ne veut plus sortir de chez lui parce qu'il a peur de tout. Il y a celle qui s'est mariée 5 fois, qui a eu 3 enfants à chaque fois, qui habite avec tous ses anciens mecs et tous ses enfants. Donc, ils ont un autobus comme voiture. Et lui, il a acheté un logiciel de reconnaissance faciale parce qu'il ne sait plus qui est qui. Il y a 3 Rachel, 4 David, il y a même un Christian, il ne sait pas qui, il sait pas, il y a un Guillaume, il ne sait pas ce qu'il fout là-dedans. Il dit à un moment donné, il y en avait même un de 8 ans qui jouait avec son téléphone par terre. J'ai dit à ma fille, c'est qui celui-là? Elle m'a fait, on ne sait pas. Il est là. Il est là depuis 2 ans, on l'aime beaucoup. Bon. Et en même temps, ça aussi, c'est un constat d'un autre mode de vie. Et sa fille, elle n'est pas malheureuse. Hein,
ouais.
Celle-là, elle n'est pas malheureuse. Mais il y a celui qui veut faire du théâtre. Ils sont tous ses enfants sont, et ses petits-enfants sont complètement déconnectés de leurs grands-parents. Alors, qu'est-ce qui va rester de la mémoire? C'est légitime pour des grands-pères aujourd'hui qui ont immigré et qui sont arrivés, parce qu'il y en a en Belgique aussi, ou aux États-Unis, où tu veux, on s'en fout, c'est légitime de se demander qu'est-ce qui va rester d'eux plus tard. Puisque la place des vieux aujourd'hui, c'est une place de merde. Parce qu'on ne les respecte pas. Parce que dès que les vieux sont vieux et qu'ils ne peuvent plus ni marcher, ni machin, on les met dans des centres de vieux, là.
Les EHPAD.
Des EHPAD, et vous avez vu tous les scandales qu'il y a autour des EHPAD. Donc, et je connais bien, ma mère, elle a 98 ans. Jamais elle ira dans un EHPAD. Je me coupe un bras, je braque une banque, je vous prends en otage et je demande une rançon. Bon.
Vous n'avez pas tiré beaucoup. Hein.
vu votre tête, je ne pense pas que j'obtiendrai beaucoup.
C'est ça.
Jamais elle ira dans un EHPAD. Or, ils sont détenteurs de quelque chose de très important pour moi, pour vous, pour mes enfants, pour les petits-enfants que je n'ai pas encore, que j'espère avoir un jour, qui est d'où on vient. Et si on oublie d'où on vient, on ne peut pas savoir qui on est. Donc, j'adore ce spectacle et j'adore le jouer. Et j'adore garder ce qu'il y avait d'origine ouais. Au départ sur ce thème-là, puisque ça a toujours été le même thème. Sauf que c'est comme, je sais pas, c'est comme Rocky, vous voyez ? C'est à chaque fois un épisode différent qui se passe avec des choses qui reviennent les mêmes. Parce que quand je revoyais Rocky à la télé il y a deux jours, là, et parce que j'adore le personnage de Rocky, je trouve que c'est moi, je suis comme ça. Hein. J'aime autant... les films d'auteur que des films comme ça. Je suis resté très gosse, très, très, très enfant de ce côté-là. Enfin, ça me rappelle les films que je voyais en Tunisie quand j'étais petit, les péplums, les trucs comme ça. Et bien, à chaque fois, c'est une aventure différente avec le même personnage. Et bien là, c'est un peu la même chose. On les retrouve, je les adore. J'ai du mal à les... De toute façon, pour l'instant, vous savez, je n'ai même pas joué à Paris encore.
OK.
Donc, je joue à Paris à partir de fin janvier. Donc, le 22 septembre, c'est une avant-première. Donc, c'est que le début de la vie de ce spectacle. J'en ai pour 3 ans.
Minimum.
Donc, ouais. Minimum. Bah oui. Bah oui, mais parce que c'est vrai, parce que les tournées sont longues, ouais. Parce que, voilà. Et puis, je croise les doigts. Pour l'instant, les indicateurs sont bons. Vous avez levé la main, ça veut dire que vous allez changer de sujet.
Non, je n'ai pas changé de sujet. Au contraire, le 22, j'ai envie de savoir ce qui va se passer. Est-ce qu'il y aura des surprises ? C'est une sorte d'avant-première. Qu'est-ce qui va se passer concrètement ?
Il y a une première partie, je crois, avec deux jeunes. Ça, c'est plutôt sympathique. Et que je n'ai pas choisi, qui a été choisi par les Belges. Et donc, moi, je suis plutôt pour que voilà, pour ouais. Qu'il y ait à chaque fois que c'est possible, je dis oui. La grande surprise, c'est moi. Vous voyez ce que je veux dire ?
D'accord.
C'est pas une grande, c'est une grosse surprise.
C'est une surprise quand même. On la prend quand même comme surprise. Ouais.
Non, mais c'est vrai que la surprise, c'est que je joue un spectacle qui n'a pas été créé à Paris, ouais. Qui a été joué, quoi, simplement pour l'instant une vingtaine de fois, c'est tout. Que la veille, je fais un filage de l'Avare à Antibes où je vais jouer. Et le lendemain, à 14h, je joue l'Avare.
Ah oui.
Ouais. Et vous savez, l'Avare, c'est pas de la rigolade. Les Magnifiques, c'est pas de la rigolade, enfin, techniquement. Et l'Avare, c'est quand même à des kilomètres de Michel Bougenat, théoriquement. Donc, à chaque fois que je joue l'Avare, c'est un immense bonheur parce que ce n'est pas une revanche du tout, hein. Même d'avoir été nommé au Molière et machin. Bon, ils ne me l'ont pas donné. Mais c'est normal. Hein.
Pourquoi ?
Je suis trop beau.
Je suis trop
beau. Vous allez arrêter de vous moquer de moi. Hein. Je vous le dis.
Et la vraie raison, c'est quoi ?
Oui, c'est la seule raison possible. Je ne vois pas une autre raison. Et très sincèrement, c'est pas très grave. Je veux dire, déjà, d'être nommé, c'est vachement bien. Et... Vous savez, j'ai été nommé au César 4 fois, je l'ai eu 1 fois, c'est pas très grave. Le plus important, c'est le public. C'est pas... Évidemment, si je l'avais, j'aurais été content. J'aurais été content pour ma fille, pour mon fils, pour la mère de mes enfants.
Mais est-ce que pour vous, c'est parce que vous appelez Michel Bougenat et que vous êtes considéré comme comique, et donc du coup, on ne le donne pas vraiment à un humoriste, à un comique ?
Non, parce qu'ils l'ont donné à un garçon qui joue dans un spectacle comique, mais... Je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. J'aimerais bien savoir d'ailleurs pourquoi, mais qu'importe. En fait, tout ça, c'est la chose la plus importante des Molières et des manifestations comme ça, c'est de faire la promotion pour notre métier. C'est ça qui est important. C'est qu'on parle de notre métier et que surtout après cette période terrible qu'on a traversée, parce qu'on disait c'est la fin de la culture. Ce n'était pas la fin de la culture pendant le Covid, c'est faux. Vous pouviez lire des livres, vous regardiez des séries à la télé. Vu le fait que vous portez des lunettes aujourd'hui, c'est parce que vous avez vu trop de conneries à la télé, ça se voit tout de suite. C'était le spectacle vivant qui était mort.
Ouais.
Et donc, après cette période-là, d'avoir repris la route, que les théâtres ont rouvert normalement et tout ça, c'est un grand kiff. C'est un grand, grand kiff. Le reste, je m'en fous. Moi, le plus important, c'est de jouer.
Michel, on continue de parler de votre métier dans la question du patron. J'avais oublié que vous étiez aussi bavard, Michel. J'avais oublié. Si vous deviez débuter votre carrière aujourd'hui.
Si vous voulez faire l'interview ou pas avec un mec qui n'est pas bavard, interviewez un mur.
En vrai, moi j'adore. Je peux rester avec vous jusqu'à midi, mais je ne connais pas votre emploi du temps. Hein.
Mais c'est le jeu. C'est le jeu de répondre aux questions.
J'adore, j'adore. Si vous deviez débuter votre carrière aujourd'hui, dans le contexte actuel, choisiriez-vous encore l'humour comme métier?
Oui, bien sûr.
Pas la médecine.
On choisit pas de faire rire. On fait rire. C'est un état. C'est une question de. C'est par pudeur qu'on fait rire. C'est par. Comment dire? C'est une question de politesse de faire rire. Parce que si je ne me moque pas de vous, je vais vous dire vraiment ce que je pense.
Et là, ça fera mal.
et là, vous allez tomber en larmes. c'est ma nature, ouais. C'est ma manière de réfléchir. Mon cerveau fonctionne comme ça. Et surtout mon cœur. Et vraisemblablement, si je fais rire, c'est parce que. Il y a des tas de blessures que j'ai pas digérées.
Comme quoi?
Je sais pas. Et je vais vous donner le numéro de mon psychanalyste. Il va vous parler si vous voulez. Mais je pense que non. Bien sûr que je choisirai l'humour, même si il y a des choses plus compliquées aujourd'hui qu'avant, à cause des réseaux sociaux fondamentalement. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes la moindre. Avant, vous pouviez dire des conneries dans un bar. Vous voyez,
ouais.
Avec des copains, et il n'y avait aucune conséquence. Aujourd'hui, vous pouvez dire des conneries n'importe où, et tout d'un coup, ça peut être repris, transformé, sorti du contexte, et ce que vous avez dit avec humour ou avec légèreté devient une chose très grave. Et en plus, on est dans une société qui mute. C'est vrai que moi, quand je parle avec ma fille, elle me dit les pansexuels, les transgenres, elle me raconte tout ça. Au début, quand elle me parlait de ça, je faisais un peu l'idiot et tout ça, je me moquais. Et elle a vachement mal pris. Et je me suis excusé parce que c'est leur problématique. Et on est dans une société, vous savez, on ne dit plus ni lui ni elle, on dit yel ou un truc comme ça là. Je suis pas là, je juge pas. Je dis juste que pour se moquer de ça, il faut le faire avec beaucoup de finesse. Voilà. Parce que sinon, vous vous moquez de toute une jeunesse qui se cherche aujourd'hui, qui essaie de construire une identité qui est peut-être différente, qui est peut-être pas mieux ou moins bien que la nôtre, enfin de celle de ma génération. Et la moindre des choses qu'on doit avoir, c'est du respect pour eux. Alors, ça nous empêche pas de se moquer.
Mais c'est plus difficile.
Mais il faut être malin. Non, mais on se moque très bien des choses simples pour nous, des choses évidentes pour nous. Quand je me moque de vous, personne ne pense que je pense vraiment ce que je dis.
Oui.
Et, par exemple, enfin. Et puis, quand je me moque de vous, vous riez.
Oui.
Donc, vous le partagez avec moi. Donc, ça devient possible. On peut rire de tout, mais pas n'importe comment. Alors, Desproges disait pas avec n'importe qui, et il avait raison. Et moi, je rajoute pas n'importe qui et pas n'importe comment. C'est-à-dire que ça demande... mais bon, les grands humoristes traversent le temps. Coluche reste Coluche. Et Coluche, aujourd'hui, ça marche. Raymond Devos, dont c'est le centenaire d'ailleurs, c'est éternel. Il faut faire l'humour qu'on est capable de faire et pas essayer de... Tout n'est pas possible. Mais ça n'a jamais été tout possible. C'est pas vrai.
Sauf un peu plus dans les années 80 quand même, non?
Bah oui, parce qu'une blague homophobe en 80, ça faisait marrer tout le monde parce que le monde était homophobe. Ouais. Vous voyez ce que je veux dire? Une blague sur... y avait des choses qui étaient admises parce que la société était raciste ou homophobe ou misogyne. Vous voyez, c'était pas... ce matin, j'ai reçu une histoire drôle. Moi, j'adore les histoires drôles.
Je sais bien.
Ouais, oui, parce que je trouve qu'elles sont, comment dire, elles font circuler la pensée populaire avec beaucoup plus de finesse qu'on pense. Mais elles représentent toutes les peurs, tous les tabous. Les histoires drôles, elles sont racistes, antisémites, homophobes, misogynes, tout ce que vous voulez. Vous avez tout dans les histoires drôles. Et il y en a qui sont insupportables. Il y en a que vous pouvez raconter qu'à la maison et en rire avec un peu de honte dans un coin en espérant qu'on ne vous entend pas, parce que c'est malsain presque. Il y en a qui sont très bénéfiques et qui font avancer le schmilblick. Mais la plupart sont... je veux dire, c'est toujours... Là, ce matin, je vous dis, on m'a envoyé une blague qui est d'une misogynie incroyable.
Mais ça vous a fait rire ou pas?
Eh ben, non.
Ah oui.
Elle m'a pas fait rire.
Donc c'était pas une histoire drôle pour vous.
Non, parce que c'est la démonstration, c'est un humour, comment dire, de refoulé. C'est un humour de machiste absolu. Okay. Vous voyez. Okay. Alors que il y a des histoires sur les homos, par exemple, que quand je les raconte aux homosexuels, ils meurent de rire. Et même souvent, il y en a que c'est les homos qui me les ont racontés.
Ouais.
Vous voyez. Donc, c'est une question de finesse. C'est très, très important, la finesse. C'est très, très important. C'est pas n'importe quoi. On se moque beaucoup. Par exemple, chez nous, évidemment, ici, on est très, très content de se moquer des Belges. Pourquoi? Parce qu'on pense qu'en se moquant des Belges, ça nous rend, nous, plus intelligents.
Ouais.
Et regarde comme ils sont cons. Ouais. Et il y a d'ailleurs un truc qui me fait marrer, c'est que les Belges, ils disent que la forme de la Belgique, c'est comme la forme d'un cerveau. Il se trouve que c'est au-dessus de la France. Il y avait une histoire d'un Français qui arrivait en Belgique et qui disait qui arrivait en vélo. Et qui disait à son copain qui était en vélo derrière, il fait tu vois, ils sont cons les Belges, comme ils sont cons les Belges. Et il fait, il y a le pompiste qui arrive, il arrive à la station de service, il dit, pouvez-vous me faire la pression des pneus, s'il vous plaît? Alors le mec, il prend une pompe, machin, tout ça. Pouvez voir l'huile? Alors le mec, il prend une petite pipette d'huile, il met sur la chaîne et tout ça. Et à la fin, le pompiste belge, il lui met une grande claque. Le mec, il n'en revient pas. Le belge fait bah, « Excusez-moi, j'ai dû claquer la porte trop fort. » Et en même temps, les Belges eux-mêmes racontent des histoires belges. Ce n'est pas des histoires belges, d'ailleurs, c'est des histoires drôles que vous racontez avec votre accent. Enfin, quand, et les Belges ont beaucoup, beaucoup d'humour de supporter tout ça. Hein.
Ah ouais.
Mais vous pouvez les faire avec n'importe qui. L'histoire du couple qui est au feu rouge.
C'est quoi l'histoire okay. du couple?
Vous la connaissez, celle-là?
Non, je ne la connais pas.
Et alors, au bout d'un moment, c'est le mari qui est au volant. Et au bout d'un moment, la femme, elle fait « Mais je te dis que c'est vert !» Vert. L'autre, il ne bouge pas. Et au bout de 10 minutes, il fait une grenouille. Et là, je voulais faire avec l'accent parisien.
Ouais,
D'accord?
ouais.
Ben, quand on me l'a raconté, c'était une histoire belge.
Ah, ok.
Vous voyez? Moi, ce qui m'amuse en Belgique, c'est tout, ça m'a jamais quitté. Pourtant, c'est con, hein, ce que je vais dire. C'est quand vous dites, mais je peux pas. Par exemple, je peux pas tourner.
Ouais.
Au lieu de dire c'est pas possible,
On dit je peux pas.
vous dites, je peux
Ouais.
pas. Là, je peux pas tourner là. Et moi, la première fois qu'on m'a fait ça, j'ai dit, bien sûr que tu peux. Tourne ton volant et tu tournes, et c'est tout. Sinon, je peux pas. Tu peux pas. Mais quoi, tu peux pas? Il y a un blocage dans tes bras. L'humour est une chose tellement magnifique, tellement salvatrice, tellement. Vous connaissez cette histoire? Ah, elle est très bonne d'ailleurs, je vais la raconter. Je vais la mettre sur Instagram, celle-là.
Allez-y, hein, je vous en prie, moi je peux partir pour 3 heures d'histoire, j'adore.
Non, ça suffit maintenant. Posez une autre question.
Bon, ok, on passe à une autre question? Allez, question des lecteurs, c'est parti. Est-ce qu'il y a des choses que vous avez regretté faire dans votre carrière?
Oui, mais je le dirai pas pour respect, par respect pour les gens avec qui je l'ai fait, parce qu'après tout, si j'ai accepté, c'est ma responsabilité. Donc, mais non, mais bien sûr.
Mais pourquoi vous les regrettez? Est-ce que c'était parce que c'était pas bon? Parce que c'était pas
Parce
dans
que
votre...
avant de les faire, je savais que ça serait pas bon. Vous savez
Avant
la différence?
de les faire?
Oui. Vous savez la différence entre une erreur et une connerie?
Non.
C'est 2 mois. Vous pourrez me citer, le mettre au-dessus de votre lit le soir pour vous endormir.
Je mets Mimi Boujna.
Oui, exactement. La différence entre une erreur et une connerie, c'est qu'une connerie, c'est une erreur qu'on sait qu'on va faire. Parce qu'une erreur, c'est pas grave. Une connerie, c'est con. D'ailleurs, ça, comme c'est écrit.
Mais pourquoi avoir accepté du coup si vous saviez à l'avance quoi?
Bah, une fois, je citerai pas le nom du film, mais un jour, on propose un film. J'ai dit non. Et puis, ils insistent, ils insistent. C'était avec un immense acteur et tout ça, machin. Bon. Je dis, mais le scénario est pas bon. Il faut pas le faire, le film. Écrivez un autre film. Non, 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 tu connais rien, tu sais pas, nous, on a raison. Le film, il va être super. Non, je veux pas le faire. OK? Je dis non. Il me rappelle. Après, c'est un appréciateur qui m'appelle. Mais Michel, il te propose tant. Tu veux toujours pas? Non, je veux pas le faire. Je raccroche. 2 semaines après, il me rappelle. T'es sûr que tu veux pas le faire parce qu'il te propose tant maintenant?
Ah oui, ça a augmenté à chaque fois en fait.
Bah oui, à la fin. J'ai dit oui.
Mais pour
J'ai
l'argent,
refait.
du coup.
Mais oui, bien sûr, alors.
Oui.
C'était pas pour tuer quelqu'un, hein. C'était pour faire un mauvais film. Bon, ben, je l'ai fait. Et c'est con parce que j'aurais pas dû le faire. J'aurais pas dû le faire. Bon, ben, j'ai pris de l'argent et ça, c'était cool. Voilà, ce qui est pris n'est plus à prendre. Et je dois pas avoir honte. Mais au fond, aujourd'hui, même si on proposait la même chose et tout ça, je vous jure que je ferai tout pour pas le faire. C'est une leçon. Mais bon, en même temps, c'est pas grave. Vous voyez, je veux
Oui, c'est
dire,
pas très grave, ouais.
Michel Galabru, il en a fait des centaines des films des nanars. Et il le disait avec fierté. Il disait, ça m'a permis d'acheter mon théâtre, ça m'a permis de payer toutes mes pensions alimentaires parce qu'il en avait une flopée. Voilà. Donc. Après tout, c'est notre métier, on est engagé pour ça, on n'est pas. Parfois, on est comme des mercenaires. Hein. Mais bon, moi, c'est
Mais
vrai que j'ai dû.
aujourd'hui, par exemple, vous êtes un peu plus sélectif. On vous propose des choses, là, vous le faites même plus. C'est pas question d'argent, là, c'est question juste d'histoire.
Absolument. Aujourd'hui, de toute façon, il y a plein de gens qui savent que je refuserai, donc on me le propose pas, donc je suis tranquille. Et puis, aujourd'hui, ma vie, elle est tellement remplie. Entre le théâtre, les one-man shows, les films que j'écris, que ça va. Je veux dire, sauf si demain Claude Lelouch m'appelle. J'aimerais vraiment qu'il m'appelle, parce que j'adore travailler avec lui. Voilà, sauf s'il y a des choses qui arrivent comme ça, là, oui. Voilà, avec Claude Lelouch, je tournerai l'annuaire s'il faut.
Ah oui.
Ouais. Et oui, parce que pour un acteur, c'est un bonheur, Claude Lelouch. Vraiment. Je crois que c'est quelqu'un qui connaît les acteurs. C'est passionnant de tourner avec lui. En tout cas, pour moi, ça a été passionnant quand j'ai fait Les Misérables avec Belmondo. C'est un souvenir magnifique. Peut-être que le film, ce n'est pas son plus grand film, mais enfin, c'est loin d'être le plus mauvais. Et c'était une super aventure. Donc, il y a des choses comme ça. Et puis, demain, si je pouvais jouer au théâtre De Bureau, la pièce de Guitry qui s'appelle De Bureau, qui est magnifique, ne serait-ce que pour une seule phrase qui dit: laisse la gloire aux gens qui font pleurer, toi tu les fais rire. J'adore cette phrase. Elle résume toute ma vie. Parce que c'est vrai que beaucoup de mes camarades qui ne font pas rire ont eu beaucoup plus de gloire que nous, les humoristes. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Nous, on a quelque chose de magique. On trouve le moyen de faire rire. Regardez même vous, avec la tête que vous avez, j'arrive à vous faire rire depuis ce matin.
Ben oui, moi j'adore, je vous adore. J'ai regardé toutes les blagues de Michel Boujna depuis hier. Je suis en boucle sur YouTube. Blague Michel Boujna. Hein, donc
Non, j'adore. Bon, ben, je vais vous la raconter quand même, même si je
Ah!
la mets sur Instagram.
Allez, on y va.
Non, je pense à ça parce que ça tourne. Là aussi, vous voyez, ça tourne en dérision beaucoup de choses sur le couple. C'est un homme et une femme, ils ont 102 ans et 100 ans. Et ils vont voir un avocat. Il dit: bonjour maître, on voudrait divorcer. Je dis: vous voulez divorcer? Mais vous êtes marié à quel âge? À 18 ans. Et ça fait presque 80 balais que vous êtes marié, vous voulez divorcer maintenant? Mais pourquoi maintenant? Ils disent: parce que on n'a pas voulu que les enfants y souffrent, on a attendu qu'ils meurent. Elle est magnifique.
Elle est magnifique.
Elle est sublime.
J'adore.
Et elle dit plein de choses. Elle dit plein de choses.
Ouais.
Elle dit des choses sur le sacrifice. Elle dit combien de parents ont pensé qu'il ne fallait pas divorcer pour pas faire souffrir les enfants, ce qui était une erreur. Voilà. Et elle nous fait rire. Mais elle nous fait rire à cause de ça. Faut pas se tromper. C'est pas anodin.
Ouais.
Elle nous fait rire parce qu'elle parle de ça. Donc, elle tourne en dérision une vraie souffrance. Des gens qui n'ont pas osé divorcer, qui toute leur vie sont restés ensemble alors qu'ils ne s'aimaient plus. C'est terrible ce que ça dit
Ouais,
quand
c'est
même.
terrible.
Voilà. C'est pour ça que j'aime les histoires drôles. Et c'est pour ça que j'aime faire rire. Parce que ça permet de parler de choses aussi graves que celles-là. Parce qu'on peut très bien prendre ce sujet-là, d'accord? Et mettre deux vieux avec leurs enfants, ou un couple avec leurs enfants, un couple qui s'aime plus et qui se persuade qu'il faut pas divorcer pour protéger
Ouais.
les enfants alors qu'ils les font souffrir. Et on fait un film là-dessus, ou voilà, et on raconte une chose, et on peut raconter cette histoire en faisant pleurer tout le monde ou en faisant peur à tout le monde. Donc, parce que ça peut finir par un meurtre. Hein. Vous imaginez qu'ils tiennent, ils tiennent, ils tiennent alors qu'ils ne s'aiment plus. Un
Ah
jour,
ouais.
ils craquent, ils s'engueulent. Et ça arrive. Et ça arrive parce que, hélas, les féminicides, ça existe. Ce n'est pas une invention. Vous voyez, comme on peut tourner le même sujet, et ben moi, ce que j'aime, c'est faire rire avec parce que ça dédramatise, mais ça n'empêche pas le contenu.
C'est beau,
Je suis
Michel.
intelligent. Eh, c'est dingue ce que je suis intelligent. Je suis fatigué.
Je trouve que plus vous êtes fatigué, plus vous êtes intelligent.
Oui, c'est fou, hein? C'est dingue,
C'est fou comme truc, c'est incroyable. Bon, Michel,
hein?
on passe au coup de pression. Avant l'ultime questionnaire, coup de pression. Un nouveau film, Trois hommes et un couffin, est-ce que c'est possible?
Oui, on pourrait jouer des grands-pères.
C'est possible ou pas?
Bah oui, ah, concrètement,
Oui,
ah, je sais
concrètement.
pas. Je sais pas, ça serait assez beau. Qu'elle se soit qu'elle ait eu des enfants et que un jour elle débarque avec trois gosses de 8 ans, 9 ans, 12 ans, et qu'elle nous dise « je me casse, j'ai un contrat aux États-Unis, je m'en vais 6 mois, je vous les laisse. Hein » Je vous les laisse. Et là, on retrouve trois grands-pères avec trois ados, ou pré-ados, ou trois jeunes, avec leurs problèmes, avec leurs angoisses, avec le délire sur la drogue. Avec, oui, c'est un sujet vraiment fort. C'est possible, mais moi, c'est à Colline qu'il faut dire ça.
Vous n'avez jamais parlé de ça ?
Non. On s'est vu il y a pas longtemps. Elle est venue voir Lavar à Paris. Non, on n'a pas parlé de ça. On a eu beaucoup de plaisir à se retrouver. J'étais très content.
Ok. Bon, on espère qu'un jour, ça peut se faire, du coup.
Ouais, bien sûr. Non, mais c'est... Moi, j'y pensais même pas. C'est vous qui me donnez l'idée.
Ben voilà. Comme ça, vous pouvez l'appeler juste après l'interview. Comme ça, ça avance.
Comme quoi on peut avoir, on peut ne pas être rasé de manière insupportable et être intelligent.
Mais alors, de la part d'une personne qui est aussi mal rasée que moi, je le prends pour un compliment.
Oui, mais... Il commence... Et appelez la direction, il commence à répondre, il n'a pas le droit.
Michel, on passe à l'ultime questionnaire.
Oui, quoi ?
Ultime questionnaire, soit un questionnaire gentil, soit un questionnaire méchant, ok ?
Méchant.
Ah, vous préférez le méchant ? Bon, bah, ok.
C'est pas intéressant d'être gentil.
Ok, bah allez, on passe sur le méchant.
Vous préférez gentil, vous ?
Non, je préfère le méchant aussi, vous avez raison.
Vous avez ? Allez, allons-y.
Allez, on fait le méchant alors.
Vous faites peur, vous allez voir.
Quel est votre pire film ou pièce de théâtre ?
Pour moi, le premier film que j'ai fait qui s'appelait Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour avoir une femme qui va boire des cafés avec les. Attends. Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour avoir une femme qui boit des cafés avec... Non. Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu ? Même le titre, il est nul. Mais... Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour avoir une femme qui va dans les. Dans les...
Non.
Qui va boire des cafés avec
des
hommes dans.
Non, c'est non. Pas. C'est... Mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour avoir une femme qui boit dans les cafés avec les hommes ?
Voilà, c'est ça. Merci, docteur. Ça, c'est le pire film que j'ai fait. Mais par contre, la femme qui jouait ma femme dans le film, c'est une actrice géniale qui s'appelle Lorraine Bracco, qui dans Les Sopranos jouait la psy dans le feuilleton américain Les Sopranos, okay. et qui jouait la femme de Ray Liotta dans Les Affranchis de Scorsese. Et c'est une actrice géniale. Elle avait été nommée aux Oscars et tout.
Mais pourquoi c'est votre pire film ?
Parce que c'était mauvais. parce que j'étais mauvais. Oh, j'étais mauvais comme un chien. Il y avait un chef machiniste, il m'avait dit, t'es très très mauvais. Hein.
Ah oui ?
Ouais, il m'avait dit, ouais, Pequignot, il s'appelait, j'adorais. Il m'a dit, t'es très très mauvais, mais si tu bosses, peut-être qu'un jour tu seras bon. C'est gentil. Non, mais c'était une fausse chose méchante.
Oui.
C'était une vraie gentillesse.
Pourquoi vous n'êtes pas dans la bande des grosses têtes ?
Ouais, j'y vais de temps en temps.
Bon, c'est rare.
Ouais, bah, j'y vais pas tout le temps, je peux pas, j'ai pas le temps.
Ah, c'est le temps qui vous...
Bah oui, j'ai pas le temps, plein de trucs. Non, j'ai pas le temps, mais j'aime bien, hein, on rigole. Hein.
Est-ce qu'on vous a demandé dans des émissions comme Masked Singer ou Danse avec les Stars ?
Même pas en rêve.
Mais on vous l'a demandé ?
Non.
Non ? Et vous, ça vous intéresse pas ?
Vous êtes fou, quoi. Faut arrêter la cocaïne. Hein. Vous êtes malade. Et même pas en rêve, je fais ce genre de truc. Jamais.
Jamais ?
Je peux pas. Non, je peux pas, c'est pas mon truc. Déjà, là, à la télé, c'est pas mon truc. J'y vais parce que c'est la seule manière de promouvoir le travail. En général, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais je vais à la télé en général que quand je fais un truc sur scène ou sur un film. Mais sinon, je n'y vais pas, ça ne va pas.
Vous êtes, vous êtes très rare en télévision.
Mais c'est parce que ce n'est pas mon truc. À chacun son métier. Moi, j'ai beaucoup de respect pour ceux qui font la télé. Mais moi, je n'y arrive pas, ce n'est pas mon truc.
Mais vous êtes un bon client pourtant, vous faites des blagues, vous êtes drôle.
Oui, mais ça, mais c'est pas mon truc quand même. Je le fais parce que je suis comment dire, je suis beau joueur, on va dire. Voilà. J'aime. Dire, si j'y vais, je joue le jeu. Voilà.
Ouais.
Voilà. Et je suis un bon acteur. La preuve, c'est que vous pensez que je suis heureux d'être là.
C'est bientôt fini, vous inquiétez pas, je vous laisse
Non,
tranquille
mais
après.
la radio, c'est mieux.
Vous préférez?
La radio. Ah bah oui, là, on a du temps, on dit des conneries. On a plus de temps, c'est mieux. Bon, même si, dans l'absolu, je vous dis, je trouve que le plus important, c'est ce qu'on fait sur scène ou devant une caméra, mais enfin, c'est quand on travaille, quoi. Le discours autour du travail est devenu tellement dingue aujourd'hui, ça prend presque plus de place que le travail lui-même, parce qu'il y a 250 chaînes de télé, parce qu'il y a des médias, parce qu'il y a des réseaux sociaux, parce que... Donc le discours autour... Il est parfois plus important que ce qu'on fait. Il y a des gens qui sont plus connus par ce qu'ils montrent, ce qu'ils bouffent, que par ce qu'ils font véritablement. C'est triste quand même. C'est aujourd'hui, on est dans le monde du paraître. C'est la narration de son quotidien. C'est pour ça, moi, que j'aime des gens comme Maxime Gasteuil ou Camille Lelouch. Parce que chaque fois qu'ils font un truc sur Instagram ou tout ça, ils inventent, ouais. Ils créent des choses. Ils utilisent un média pour faire des choses. Et moi, c'est ce que je fais sur Instagram à la demande du Théâtre de la Madeleine où je vais jouer mon spectacle, où je vais jouer Les Adieux des Magnifiques en janvier. Ils m'ont dit, ah, il faut que tu fasses des trucs sur Instagram. Moi, j'ai dit, ben, je vais vous raconter des histoires drôles et puis c'est tout. Puis, c'est vrai qu'en 2 mois, je suis passé de 10 000 followers parce qu'avant, j'en ai rien à foutre. Et j'en ai. C'est pas que j'en ai rien à foutre aujourd'hui, mais disons que je reste très lucide là-dessus. Mais c'est vrai que 120 000 aujourd'hui en 2 mois, quoi. Et les mecs, ils me disent, c'est beaucoup, c'est étonnant qu'en si peu de temps, tu sois monté à 120 000.
Et
Voilà.
aussi et c'est aussi un nouveau public, peut-être.
Oui, c'est possible, mais on n'est pas des représentants de commerce. Vous voyez? C'est ça le problème, c'est qu'aujourd'hui, on confond. La création artistique avec le marketing. Alors, c'est important le marketing parce que c'est ça qui permet aux gens d'être informés que tel ou tel spectacle ou tel film existe. Mais il ne faut pas que ça prenne le pas sur la création. Or, aujourd'hui, le marketing est plus important que l'objet qu'on vend.
C'est
La
vrai.
preuve, c'est que, la preuve, c'est qu'il y a plein d'influenceuses qui vendent vraiment n'importe quoi et qui ont des millions de followers, alors que ce qu'elles vendent, ça n'a aucun intérêt, mais aucun intérêt. Moi, j'ai vu des filles là qui claquent des doigts là et hop, elles changent de tenue. Et c'est terrible. Et
C'est néant.
c'est à Cannes, au Festival de Cannes, là, les grandes vedettes cette année, c'était les influenceuses. Et vous savez ce qu'elles faisaient? Elles montaient les marches, elles n'allaient même pas voir les films, elles ressortaient de l'autre côté.
Ah oui.
Mais bien sûr, elles étaient là juste pour se montrer. Et je pense en plus que je me demande si elles n'étaient pas payées pour être là, quoi. Bon, j'ai rien contre tout ça, chacun fait ce qu'il veut, mais... Et c'est une nouvelle économie, et puis et c'est très bien comme ça. Je veux dire, bon, je m'en fous, mais... Faut regarder. Qu'est-ce que c'est? Voilà. Il faut être conscient de ce que c'est. Mais il y a une différence entre Intouchable, le film, et ça. Vous voyez ce que je veux dire? C'est, j'ai fait exprès de citer une chose incontournable, ou les ch'tis, que j'adore, moi. Parce que je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas. Moi, j'adore les ch'tis. Voilà. Donc. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ça, quoi. C'est un beau texte, c'est un beau film, c'est un beau tableau. C'est ce que les êtres humains sont capables d'inventer pour nous faire rêver. Mais vraiment rêver. Mais filmer un plat de spaghettis, la vérité, ça m'a jamais fait rêver. Par contre, ça m'a donné envie, des fois. Donc, je fonçais à la cuisine et je m'en faisais.
Ouais, voilà. C'est peut-être le but d'Instagram au final, donner
Oui,
envie.
et que je prenne 3 kilos. Bien sûr, c'est ça. Vous voulez que je devienne gros, c'est ça? Vous verrez, vous êtes jeune, donc vous êtes maigre. Et
Même
vous verrez,
pas.
avec l'âge, c'est irrémédiable. Vous grossirez, vous entendez? Vous deviendrez gros et vous deviendrez vieux. Voilà, c'est comme ça.
Et je vous ressemblerai avec plaisir, Michel.
Mal ou pas?
Dernière question, Michel. Votre position politique a-t-elle déjà pu avoir un effet négatif?
Oui, bien sûr. Bien sûr, j'ai pris des positions parfois. Oui, évidemment. Mais bon, c'est.
Vous assumez ou alors vous regrettez de les avoir
Quand
prises?
c'est dans des moments, quand c'est des moments importants, moi je trouve que les artistes aujourd'hui parlent un peu de tout et de n'importe quoi. Comme il y a une inflation du discours et du propos politique en général, on demande à n'importe qui d'avoir un avis. Donc ça devient le café du commerce sur les télés, sur les réseaux sociaux, ce qui est un peu triste. Mais je pense que c'est pas le rôle d'un mec comme moi, par exemple, de dire aux gens ce qu'il faut faire. Par contre, je pense que dans les situations compliquées ou dangereuses pour la démocratie, je trouve que c'est bien qu'on se mobilise tous, pas seulement moi, mais tous. Et si moi je peux aider un peu, eh ben je le fais. Mais moi, je défends juste la démocratie. Mais parfois, je me fais taper sur les doigts. Quand je dis que je pense que le Front National ou les Insoumis ou Mélenchon, ce n'est pas la solution, je ne la connais pas la solution, mais que je dis ça parce que je vois beaucoup de violence là-dedans. Il y a plein de gens qui m'ont. Voilà, parce qu'il y a plein de gens qui votent pour le Front National ou pour Mélenchon aujourd'hui. Donc, il y a plein d'artistes qui n'osent pas prendre position parce que de peur de se couper d'une partie du public qui éventuellement serait des mecs qui votent Front National. Mais à un moment donné, il faut avoir la dignité de dire, dans les moments difficiles, il faut savoir prendre position. Mais c'est une fois. Il faut que ce soit très rare. Le reste du temps, je pense que les gens. Vous savez, si on a envie. Si les gens ont envie d'avoir un régime fasciste dans un pays, ce n'est pas parce que nous, on aura dit qu'il ne faut pas que ça changera quelque chose. Hein.
Bien sûr.
Berlin était la capitale artistique du monde dans les années 20, et 29, et 28, et 30. Donc, si les artistes avaient le pouvoir de changer le monde, ça se saurait. Nous, on est capable de le décrire. On est capable de dire ce qu'on pense à des moments donnés, mais faut être lucide. C'est pas notre métier, quoi. D'ailleurs, quand j'ai fait ça, la plupart du temps, les réponses que j'ai reçues, c'est pas ton boulot.
Ouais.
En gros, ferme ta gueule, c'est pas ton boulot. Mais au même titre que n'importe qui. Je pense qu'il y a des moments donnés. Merde, je vous ai perdu. Attendez, c'est tombé.
Moi, je vous retrouve, je vous vois, je vous vois.
Vous me voyez, vous? Attendez.
Hop, voilà, je vous vois, nickel.
Voilà. Voilà, c'est compliqué. C'est compliqué, c'est compliqué. Mais à un moment donné, s'il faut vraiment avoir le courage de dire des trucs, il faut les dire, puis c'est tout. Voilà. Moi, je me souviens de ce moment formidable de Balavoine en face de Mitterrand, un journal télévisé de midi sur la 2, il y a très longtemps, hein, où Balavoine est rentré dans l'art de Mitterrand en disant, mais taisez-vous, laissez-moi parler, vous savez rien des jeunes, vous comprenez rien sur les jeunes, vous savez pas ce que les jeunes ont envie, et machin, tout ça, c'était vachement beau. Et Peut-être y a...
Mitterrand n'était pas d'extrême droite ou d'extrême gauche.
Non, 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 mais c'est un exemple d'un artiste qui prend position en face d'un homme politique. C'était vachement fort. Et donc, vous voyez, et ça a marqué beaucoup les gens et ça a marqué beaucoup la jeunesse. Et ça a été super bénéfique. Donc, parfois, les positions de Coluche à des moments donnés, le début d'SOS Racisme, par exemple, a été un moment. Au début, hein, a été un moment extraordinaire, vraiment, de fraternité, de gens de toutes les couleurs, de toutes les religions qui se retrouvaient pour dire halte au racisme. C'était super fort ce qui s'est passé, super fort. Et ce n'était pas à l'initiative des artistes. Mais les artistes ont embarqué là-dedans et ils ont beaucoup aidé à rendre populaire La Petite Main. Ça a été un beau moment.
Michel, est-ce que je peux vous demander une blague pour conclure l'interview?
Mais je vous en ai raconté il n'y a pas longtemps.
Je sais bien, mais genre la blague du perroquet me fait toujours rire.
Ah non, mais elle est trop, vous êtes fous, quoi. Mais dans quoi? L'état où je... Avec mon genou qui me lance depuis tout à l'heure, mais je vais le frapper, lui.
Il n'y a pas une petite blague que vous pouvez faire avec votre état de santé?
Il y en a une, c'est un mec qui rentre dans un bar et qui dit « Bonjour, monsieur, c'est combien le coca ?» Là, tu fais « Vous la connaissez ?»
Oui, je la connais.
Ah bah oui, mais parce que vous les avez toutes vues.
Oui, mais vous en avez cinq ou quoi?
Comment j'en ai cinq? Sur Instagram, j'en ai je sais pas combien. J'en ai 80.
Je le connais, c'est le coca avec le service et au final, il fait payer le service à la fin, c'est ça?
Exactement. Bon, alors attendez.
Ah oui, je les ai regardés hier, je te dis.
Il y en a une, mais elle est très, 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 très misogyne. Alors non, je peux l'inverser, je peux la rendre féministe. Okay. C'est une femme qui rentre dans la chambre à coucher avec une vache.
Okay.
Et elle dit: est-ce que tu te rends compte que je suis obligé de dormir avec ce singe? Tu te rends compte de ça? Et le mari qui est dans le lit, il fait: mais arrête de dire des bêtises. C'est pas un singe, c'est une vache. Il fait: mais c'est pas à toi que je parle.
Ah, c'est pas mal. Je prends comme dernière blague.
Et en fait, cette histoire à l'origine, c'est un mec qui rentre. Et c'est beaucoup plus violent et c'est beaucoup plus méchant.
Ah oui, c'est beaucoup plus méchant du coup. Ah oui, c'est beaucoup plus violent.
Un mec qui rentre avec une chèvre et qui dit, tu te rends compte que je suis obligé de vivre avec cette vache? Et elle lui dit: mais en fait, c'est pas une vache, c'est une chèvre. Il dit: mais c'est pas toi que je parle. Et c'est très misogyne et c'est marrant parce que vous voyez, finalement. Je la trouve aussi drôle dans l'autre sens et beaucoup plus juste, vu le nombre d'hommes qui frappent leurs femmes. Parce qu'on parle des féminicides, parce qu'on a les chiffres horribles, nombre de femmes qui sont tuées par des hommes, mais on ne parle pas du nombre de femmes qui sont battues et qui ne meurent pas.
Ouais.
Que ça, vous ne pouvez pas le comptabiliser. Donc, non, il y en a une que j'aime bien. Vous la connaissez, celle du motard avec le moineau?
Ça ne dit rien.
Alors, c'est un motard. Il roule comme ça. Et puis, tout d'un coup, avec son casque, il tape un moineau. Il continue à rouler. Puis, 10 mètres plus loin, il s'arrête. Il fait: merde, j'ai tué l'oiseau. Putain, merde. Il fait demi-tour. Il va voir l'oiseau. L'oiseau, il est pas mort. Alors, il lui fait du bouche à bec. Il lui fait un massage cardiaque, le machin. L'oiseau, il ouvre à peine les yeux, mais il est dans les vapes et tout. Alors, il prend l'oiseau, il le met dans son blouson, il fonce chez lui. Il va dans le garage, il trouve une vieille cage, il la nettoie. Dans la cage, il met un petit coussin, un bout de pain, un peu d'eau. L'oiseau, il s'endort. Et le motard, il s'endort à côté de fatigue pour voir si l'oiseau va survivre. Et au petit matin, l'oiseau, il se réveille. Il voit le motard allongé, il voit les barreaux de la cage, il voit l'eau, le pain, il fait: putain de merde, j'ai tué le motard.
C'est très bon, j'adore Michel Boujna. Je suis
elle fan. Est belle, hein?
Elle est belle.
J'aime là, voilà, moi, c'est ça les histoires drôles que j'aime. C'est ce, ou les trucs qui montrent, qui parlent de nos peurs et des tabous, ou parce que le nombre d'histoires drôles qu'il y a sur le sexe, mais ouais. C'est délirant, quoi. C'est délirant. Bon. Ou celles-là, quoi. Ou celles qui sont vraiment dans l'absurde, mais en même temps, qui restent très, très simples et très compréhensibles par tout le monde.
Non, mais dans les soirées, vous devez faire un carton, vous. Hein. C'est, dans les dîners, non, ça doit être incroyable.
Hein. Ouais, en fait, j'ai des copains. Il y a Michel Leeb.
Ah oui.
Il y a un autre copain. Quand on dîne tous ensemble, c'est un festival entre nous. Mais c'est très privé, c'est très pour nous, quoi. C'est un kiff. On met même au téléphone.
Ah oui, au téléphone.
Dès qu'on en a une nouvelle, on se téléphone. Et on dit, est-ce que tu connais celle-là? Ah oui, des fois, on ne dit même pas bonjour. L'autre, il décroche et on fait. Alors, c'est l'histoire de. Voilà.
Ah, c'est
Et,
drôle.
ouais, parce qu'on aime vraiment ça. On aime rire d'abord, mais et on aime les mécaniques intellectuelles qui font que l'histoire fonctionne. Vous voyez? Le perroquet, c'est une très grande histoire, mais là, je suis dans un état. Je vous dis, en plus, je suis angoissé parce que je me dis,
Mais non, ça va aller.
je joue dans pas longtemps. J'ai mal au genou, je sais pas ce que j'ai.
Mais trop de tennis, vous avez mal au genou du coup, voilà, c'est pour ça.
Ouais, je crois que c'est juste musculaire, on va voir.
Mais
On va voir.
vous serez là le 22 septembre, en Belgique.
Mais même avec une jambe en moins, je suis là, vous
Ah
rigolez ou
voilà,
quoi?
ah bah super, alors on va vous retrouver le 22 septembre en Belgique à 20h à Uccle. Les adieux des magnifiques, partie 1,
Ouais.
peut-être qu'il y aura
Et
partie 2,
de toute
3.
façon, je reviendrai, vu que n'est que le début de quelque chose, parce que j'adore la Belgique et que j'adore y jouer. Donc,
Donc il y aura d'autres
avec
dates à
j'ai
venir.
avec à Andenne, je sais pas si vous voyez où c'est, Andenne.
Pas trop, mais dites-moi.
Ah, bah, évidemment, et c'est en Belgique, évidemment, patate. Et c'est la ville où ils fabriquent les ours en peluche.
Ok.
Et ben le théâtre d'Andenne, il est à mon nom.
Il a votre nom.
Il y a un seul théâtre au monde qui porte mon nom, il est à Andenne en Belgique.
C'est incroyable.
C'est incroyable, non?
C'est fou ce truc.
Ouais, et je suis très content, d'autant plus que là-bas ils font des nounours, donc tout va bien.
Vous êtes un vrai nounours en plus, on sait bien.
Oui, c'est ça. N'oubliez pas que vous parlez presque à votre grand-père.
Presque, on peut l'enlever.
Salopard! Vous savez, vous avez tort. Là, on est en Zoom, en machin, tout ça, mais je peux très bien me débrouiller pour vous retrouver en vrai, hein.
Je sais bien.
Et débarquer dans votre studio en plein direct
Mais venez, venez avec plaisir, Michel.
et foutre un bordel insensé.
Michel Bougenat sera en Belgique, 22 septembre à Uccle, 20h, les adieux des magnifiques. Merci beaucoup, Michel, d'avoir pris tout ce temps pour nous. Merci vraiment, Michel.
Vous en prie. Au revoir, à bientôt.
À bientôt, Michel.
Télépro. Tu l'as lu, t'as tout vu.